Alors nous sommes maintenant au 11e jour de cette retraite de la Bible sur le terrain. Et si vous regardez la brochure, c'est un peu modifié parce que j'étais amené, mais c'est dans le sens de l'amélioration plutôt. Enfin, hier c'était la vie cachée, la base Galilée, les horizons de la vie cachée, le cadre des options messianiques, le pèlerinage aux sources de l'intelligence chrétienne. Et maintenant, on peut résumer toute la journée dans ce thème, la montée à Jérusalem. Alors on va se mettre principalement à l'école de Saint-Luc. J'ai déjà eu l'occasion de montrer comment tout l'évangile de Saint-Luc, là, converger vers Jérusalem. Ça commence à Jérusalem, ça finit à Jérusalem dans le temple, et puis vraiment, tout converge autour de Jérusalem. Et à partir de la transfiguration, Moïse et Élie parlent à Jésus de son départ, on dit dans le texte. C'est dommage de rater l'occasion de ne pas mettre le mot exode. Enfin, Moïse et Élie parlent, en grec c'est exodos, ils parlent de son exode qu'il a à accomplir à Jérusalem. Et depuis la transfiguration, tout l'évangile de Saint-Luc s'inscrit dans le cadre d'une montée à Jérusalem. Et je ne saurais trop vous conseiller de survoler comme ça l'évangile de Saint-Luc et de montrer comment Jésus durcit sa face vers Jérusalem. On va essayer de le rejoindre dans la montée incomprise, dans la solitude incomprise de sa montée à Jérusalem. Mais tenez, comme introduction, et si on avait besoin de se consoler de quitter Nazareth, on pourrait, puisqu'on se met à l'école de Saint-Luc, commencer par lire ce tableau. Saint-Luc était médecin, mais il était aussi peintre, d'après la tradition, que Saint-Luc fait au début du ministère public de Jésus à la synagogue de Nazareth. Et dans une petite note ici, qui est due au père de Veilly, dont j'ai déjà parlé là admirablement, il dit l'essentiel en peu de mots. Il dit, c'est un raccourci, ce que je vais vous lire, de la mission de Jésus et du refus de son peuple. On aura l'occasion de survoler tout à l'heure les actes des apôtres aussi, en descendant la plaine côtière en direction de Césarée et en montant à Jérusalem avec saint Paul. Et dans les actes des apôtres, partout, il y a comme une étrange coïncidence, une relation de cause à effet, entre le refus mystérieux du peuple élu et la venue des païens. On ne peut pas nier ce rapport, quoi qu'on n'a jamais fini de le méditer. Et puis cette histoire, c'est pas fini. Alors lisons Saint-Luc ici. Jésus retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit, c'est juste après le baptême dans le Jourdain. Et une rumeur se répandit par toute la région à ce sujet, il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazara, où il avait été élevé, et il entra selon sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Et tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ? » Et il leur dit, « À coup sûr, vous allez me citer ce dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, et Saint-Luc t'a pas encore raconté, oui, c'est un tableau inaugural, « Fais-le de même ici dans ta patrie. » Et il dit, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pour 3 ans et 6 mois, quand survint une grande famine sur tout le pays. Et ce n'est à aucune d'elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta au pays de Sidon. » On aura l'occasion de lire le récit tout à l'heure dans le Carmel. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Vous voyez, comme dans le livre de Jonas, on a le même balancement. Les païens de l'Est, les païens de l'Ouest viennent, et ceux qui sont au centre refusent. Et il y a une étrange connexion entre les deux, entre le refus et puis la venue des païens. Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Et se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour l'en précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin, il descendit à Capharnaüm. Il y a un piton rocheux là, qui domine la plaine d'Esdrelon et qui permet de repérer partout l'emplacement de Nazareth. On a pris l'habitude de l'appeler le mont de la précipitation. Et pourquoi pas, c'est une façon d'évoquer. Alors si ça veut nous consoler de quitter Nazareth et nous montons à Jérusalem. Alors, je crois que le meilleur moyen de rejoindre Jésus dans la solitude incomprise de sa méditation, de sa montée à Jérusalem, c'est de méditer devant Megiddo. Nous sommes dans une forêt maintenant, en vue de Megiddo. On voit les touristes visiter la surface là, de Megiddo, c'est passionnant, point de vue archéologique. Il y a même un petit musée avant pour préparer à la visite. Les touristes descendent ensuite dans un grand trou, là, un système qui a été mis au point là, pour capter l'eau à l'intérieur de la ville en temps de siège. Et puis on les voit sortir et reprendre l'autobus. Là. Et puis il y a un marchand de glace qui vend un peu de tout là, pour les gens qui sortent. Ce qui est étonnant, vous avez fait ou vous ferez un jour la visite de Megiddo, on parle de tout, sauf de ce sur quoi la Bible nous invite à concentrer notre attention. Quand j'emmène des prêtres, là, il y a, on a entendu parler, les écuries de Salomon. Ils ont vu la photo dans leur manuel d'écriture sainte, souvent. Mais ils n'ont jamais réfléchi plus loin. C'est assez curieux. Or, nous sommes ici au carrefour du carrefour de ce pays, qui est lui-même un carrefour. On a déjà dit à plusieurs reprises que la Terre Sainte était un carrefour entre les grandes puissances du Nil et de l'Euphrate. Eh bien, Megiddo, c'est le carrefour du carrefour. Or, au carrefour du carrefour de ce pays, cette Terre Sainte, il y a eu un événement absurde. Le plus saint de tous les rois de la Bible, Josias, est mort de façon absurde. Et ça pose un immense point d'interrogation ici, au point crucial. Alors que la théologie reçue dit que le juste doit être récompensé et que le méchant doit être puni, voilà que le juste ici est mort absurdement. Tenez, je vous donne le contexte. Encore une fois, vous voyez, notre réflexion va s'élever jusqu'aux plus hautes vérités du christianisme, mais elle a besoin de s'enraciner dans la géographie, dans la géologie, dans les conditionnements topographiques de cette Terre Sainte. Alors, nous sommes au temps du roi Josias. Vous pouvez le situer facilement dans le deuxième livre des rois. Il vit entre 640 et 609 avant Jésus-Christ. Samarie, le royaume du nord, a été détruit en 722. Le royaume de Juda est resté tout seul. Il y a eu pas mal d'avatars. Mais Josias, alors, est un roi, est le plus saint de tous les rois de la Bible, encore plus que David. Il fait ce qui est agréable à Dieu sans en dévier ni à droite ni à gauche. Au début de son règne, il fait des travaux de restauration dans le temple qui était quelque peu négligé. Et au cours de ces travaux, on découvre un livre. Le Deutéronome, en gros, que nous avons actuellement dans la Bible. Et sur la base de la lecture qu'on fait de ce livre, après consultation de la prophétesse Rolda, vous lirez tout ça, une lecture solennelle de toute la loi, tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, il lut devant eux tout le contenu du livre de l'Alliance trouvé dans le Temple. Alors on renouvelle l'Alliance et on fait une grande réforme religieuse. On supprime non seulement tous les cultes païens qui continuaient à persister là, mais on supprime aussi même tous les autres lieux de culte pour qu'il n'y ait plus qu'un seul culte, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et si vous lisez le chapitre 12 du Deutéronome, on voit la loi d'unité du sanctuaire, Hamakom au singulier, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et oui, la réforme s'étend à tout le royaume. Et voilà que, à cette époque-là, la Syrie, qui occupait le nord du pays depuis l'invasion de 722, voilà que la Syrie a à faire face, à l'autre bout du croissant fertile, là-bas du côté du golfe Persique, à une autre grande puissance. Alors elle déménage ses troupes, et Josias voit le pays qui se dégage de la botte des Assyriens. Et les Assyriens alors vont faire face aux Babyloniens de l'autre côté. Alors, sur les entrefaites, le roi d'Égypte, l'autre superpuissance en Égypte, s'inquiète. L'ennemi traditionnel de l'Égypte, c'était les Assyriens, mais l'Égypte a encore plus peur de Babylone que des Assyriens. Alors, le roi d'Égypte a une politique tout à fait différente de celle de Josias. Bon, Josias, il fait des rêves. Il pense que de nouveau, les tribus du Nord vont retrouver Jérusalem pour centre et que toutes les tribus du Nord vont recommencer à aller en pèlerinage à Jérusalem comme au temps de Salomon. Ils perdront l'habitude d'aller à Dan et à Bethel se mettre à plat ventre devant les veaux de Jéroboam. Il fait une grande réforme, il fait des rêves de restauration, etc. Et puis il est persuadé que, puisqu'il est juste, qu'il accomplit la loi, il est... Et Josias, intrépide, veut s'opposer à cette expédition du pharaon qui va au secours des Assyriens contre les Babyloniens. Alors qu'est-ce qu'il se fait ? Eh bien, il se poste, pas ici à Megiddo, pour empêcher les armées de Pharaon de passer. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tout simplement, il est bousculé. Et alors, ça paraît tellement absurde qu'on ne veut pas en parler. Voyez, on conclut le règne de Josias ici, comme ça. Le reste de l'histoire de Josias, ça vous intéresse, tout ce qu'il a fait, allez voir les annales des rois de Juda. Et puis, en dehors de la petite clausule finale, parce que c'est comme une chose que, voyez, comme on fait un rêve inavouable, on le censure. Hein, la mémoire se trouve inhibée. Hein, on ne veut pas y penser tellement c'est absurde, que le plus juste de tous les rois meurt d'une façon aussi absurde. Alors, on mentionne simplement, de son temps, le pharaon Necho montant d'Égypte, sur le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias se porta au-devant de lui, mais Necho le fit périr à Megiddo, à la première rencontre. Alors ses serviteurs transportent son corps en char depuis Megiddo, le ramènent à Jérusalem, on l'ensevelit, et puis on nomme un successeur, le roi est mort, vive le roi, et on passe. Alors, quand on rédige le livre des chroniques beaucoup plus tard, voyez, cette absurdité, la pensée juive dans son réalisme refuse l'insignifiant, refuse l'absurde. Et alors on attend, on se tape la tête contre le mur, jusqu'à ce que dans la suite des événements, une solution soit apportée, non pas théorique, mais concrète dans l'histoire. Alors, dans le livre des chroniques, dans le deuxième livre des chroniques, vers le chapitre 34-35, on raconte en gros la même histoire. Je passe sur les détails. Mais tandis que dans les rois, on mentionne en dehors la mort absurde de Josias, ici, c'est inclus, hein, avant la conclusion. Et puis, au lieu de trouver deux versets, on en trouve toute une colonne, ici, que je vous lis. Après tout ce que fit Josias pour remettre en ordre le temple, Necho, roi d'Égypte, monta combattre à Carchemish. Tenez, voilà une donnée qu'on n'avait pas dans le livre des rois, sur l'Euphrate. Josias s'est emporté à sa rencontre, il lui envoya des messagers pour lui dire « Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi, roi de Juda? C'est pas toi que j'ai à s'attaquer aujourd'hui. C'est une autre maison que j'ai à combattre et Dieu m'a dit de me hâter. Laisse donc faire Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne cause ta perte. » Mais Josias ne renonça pas à l'affronter. Il était fermement décidé à le combattre et il n'écouta pas ce que lui disait Necho au nom de Dieu. C'est bizarre, ça. Il livra bataille dans la trouée de Megiddo, nous y sommes. Les archers tirèrent sur le roi, et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi car je me sens très mal. Vous vous rappelez, dans le livre des rois, il meurt tout de suite et on emporte son corps à Jérusalem. Ses serviteurs le tirèrent alors de son char, le firent monter sur un autre de ses chars et le ramenèrent à Jérusalem où il mourut. On l'enterra dans les sépultures de ses pères. Tout Juda et Jérusalem firent un deuil pour Josias. Jérémie composa une lamentation sur Josias, celui qui était spécialiste en la matière, que tous les chanteurs et chanteuses récitent encore aujourd'hui dans leur lamentation sur Josias. On en a fait une règle en Israël et on trouve ces chants consignés dans les lamentations. Mais tout ça sont des données nouvelles. Et puis alors la conclusion arrive après, incluant tout cela, le reste de l'histoire de Josias, etc. Eh ben, allez voir dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Alors, voyez-vous comme la réflexion se développe et on passe par les prophètes, dégagent la signification des événements. Et il y en a un qui est revenu spécialement sur cet événement, c'est le prophète Zacharie. Il y a aussi deux Zacharie comme il y a deux ou trois Isaïe. Et ce deuxième Zacharie est le livre après Isaïe le plus cité dans le Nouveau Testament. Et certainement que les récits de la Passion sont pleins de réminiscences de ce livre de Zacharie. Le pasteur qui est frappé, les brebis qui sont dispersées, le chef qui a été méprisé, vendu 30 shekels, et beaucoup d'autres choses. Et alors nous montons à Jérusalem ici, et vous allez voir qu'il y a comme une telle liaison entre Jérusalem et Megiddo, au plan de la signification eschatologique, apocalyptique, que d'ici on pourrait aller directement à Jérusalem, on a abordé comme le sujet principal. Oracle, je vous lis le chapitre 12, quelques extraits. Oracle de Dieu qui a tendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Je fais de Jérusalem une coupe de vertige pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre à soulever pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront se blesseront grièvement, et contre elle se rassembleront toutes les nations de la terre. Et verset 9, il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ibitu elai et asher dakaru. Voilà, l'évangile de Saint Jean, qui est au sommet de la pensée néo-testamentaire, monte vers cette phrase, ils regarderont celui qui a été transpercé. Essayons de rejoindre ce que Saint Jean avait dans l'esprit, dans le cœur, quand devant la croix, il amène tout ce thème que nous sommes en train de suivre, dont nous suivons les étapes, devant le Christ crucifié. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, ils le pleureront comme on pleure un premier-né. En ce jour-là grandira la lamentation dans Jérusalem comme la lamentation de Hadad Rimmon dans la plaine de Megiddo. Et la liaison Jérusalem-Megiddo. Le clan de la maison de David à part, leurs femmes à part. Le clan de la maison de Nathan à part, leurs femmes à part. Le clan de la maison de Lévi à part, leurs femmes à part. Le clan de la maison de Shimei à part, leurs femmes à part. Et tous les clans, ceux qui restent, clan par clan à part, avec leurs femmes à part. Et en ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. On a vu déjà ce thème de la source, on le reverra. Rappelez la source qui sort de Jérusalem, qui coule dans le désert en y faisant pousser des arbres et qui ressuscite la mer morte. Qui va ressusciter, régénérer le point le plus bas, le plus sinistre, le plus pécheur du globe. Et bien ici, on voit une liaison. Cette source, ce fleuve, symbolise au fond la fécondité de la mort du juste. La mort du juste n'est pas absurde. La mort du juste a une signification. On se tape la tête contre le mur pour la trouver. Et puis la mort du juste est le point de départ d'une conversion nationale. Vous allez voir que non seulement on se tourne contre vers le transpercé, mais on transperce les faux prophètes qui auparavant. Et puis c'est pas seulement une conversion nationale, c'est une régénération du monde entier. Vous voyez, on est en route et on commence à comprendre ce que Saint Jean veut dire quand il parle de ce fleuve. Et ce que dira la liturgie, sanguis unda profui, du sang et de l'eau sont sortis du temple et la terre, la mer, le cosmos tout entier est purifié. J'ai vu l'eau sortir du côté droit et tout ce à qui elle parvient, l'eau de ce fleuve, ressuscite et chante Alléluia, la liturgie pascale. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Je retrancherai du pays, dit le Seigneur, les noms même des idoles, on n'en fera plus mémoire. Et de même, les prophètes, les faux prophètes et l'esprit d'impureté, je les chasserai du pays. Et si quelqu'un veut encore prophétiser, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car ce sont des mensonges que tu prononces au nom de Dieu. Oui, les liens de parenté n'existeront plus, comme au temps où les Lévites là, ont réparé l'apostasie du veau d'or. Et pendant qu'il prophétisera, son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront. Vous voyez, on se tourne vers le transpercé et on transperce les faux prophètes. Les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Ils ne revêtiront plus le manteau de poil avec le dessein de mentir, ça c'est l'habit professionnel. Ils diront, je ne suis pas prophète, moi je suis un homme qui travaille, la terre est mon bien depuis ma jeunesse, la profession est tellement discréditée qu'on n'ose plus en parler. Et si on lui dit, qu'est-ce que c'est que ces insignes-là que tu portes, ces blessures sur ta poitrine, oh, il aura une réponse évasive, j'ai reçu ça chez mes amis. Alors frappe le pasteur que soient dispersées les brebis. Et je garde pour Jérusalem le chapitre 14, où toutes les nations du monde montent à Jérusalem pour la détruire, et puis alors il se passe ce qui se passe avec quelques mouvements tectoniques à l'appui, et puis les rescapés montent à Jérusalem pour y confesser le nom du Dieu vivant. Et c'est comme ça qu'à la fête de Soukhot, le règne de Dieu arrive dans la pensée de l'Ancien Testament. Alors maintenant, si nous passons au Nouveau Testament, Megiddo a une place très importante. Je vous lis l'Apocalypse ici. La pensée se projette dans notre Apocalypse. Grâce et paix vous soient données par Il est, Il était et Il vient. Par les sept esprits présents devant son trône et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Et au chapitre 16, alors, le sixième ange répand sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, ses eaux tarirent, livrant passage au roi de l'Orient, puis de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la gueule du faux prophète, je vis surgir trois esprits impurs, comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu. Et laisser voir sa honte, ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Har Mageddon. Ar, c'est la montagne, Magadan, c'est Megiddo. Vous voyez, le site est tellement riche de significations ici que cette signification se projette vers Jérusalem, se projette vers la fin des temps. Vous voyez, Armageddon. Et vous avez certainement entendu parler des fondamentalistes qui viennent vous faire de la vente porte en porte de Bible et qui vous parlent de Armageddon. Bon, on les envoie promener, mais on ferait mieux de leur dire, comme vous avez raison, mais si vous saviez comme c'est intéressant, tenez, je vais vous expliquer, voilà, puis refaire toute cette lignée d'Armageddon.
Alors, Josias, c'est une figure,
je crois. C'est curieux, ça je ne l'ai pas trouvé développé dans la tradition juive, ce thème-là. Hein? Et d'ailleurs, je crois que c'est le point de départ de toute une ligne de texte, enfin, tout un courant de pensée. Et je pense que c'est à partir de là que Jésus a déchiffré son intelligence humaine, encore ne trichant pas avec la condition humaine. De même que dans les horizons de la vie cachée, enfin, il a formulé ses options messianiques. De même, en lisant ces textes qu'il écoutait à la synagogue, il a dû percevoir avec une lucidité extraordinaire enfin, le tragique de sa mission messianique, accomplissant les prophéties du serviteur. Enfin, du serviteur et du fils de l'homme tout à la fois. Et puis cette lignée, moi je crois, mais il faudra interroger des professeurs. J'en ai rencontré une fois qui m'a dit, tu peux pas le prouver. Évidemment, au plan mathématique, c'était un polytechnicien. Mais je pense que... Je me base surtout sur la grande tradition de l'Église. Et je crois que la recherche rejoint les grandes intuitions que l'Église chante dans sa liturgie depuis la plus haute antiquité. Mais attendez, on n'a pas fini. L'Apocalypse, c'est pas le stade dernier pas de la pensée néo-testamentaire. Et je crois que Saint Jean marque une étape encore ultérieure. Et tenez, je vous lis ici Saint Jean, au sommet du Nouveau Testament. Il est là, au pied de la croix. Les autres sont partis. On a vu tout à l'heure. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Rappelez-vous de la journée d'hier, c'est comme ça que nous avons terminé. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé. Pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Un vase était là rempli de vinaigre, on mit autour d'une branche d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et en inclinant la tête, il remit l'esprit. Il y a un verset où il dit, il n'a pas reposé la tête, et le même verbe est employé ici, il n'a reposé la tête que sur la croix une fois sa mission accomplie. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le Shabbat, car le Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venu à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Ici, on dira un témoin oculaire qui rapporte des faits. Hein. Et puis tout d'un coup, son ton devient emphatique. Pourquoi ? Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Ça peut faire allusion à l'agneau pascal, dont il est dit qu'aucun os ne lui sera... Mais ça fait allusion, je crois, encore plus au psaume 35. Ou alors, Dieu prend en main la cause du juste, et à la face du monde, alors le sort de ses épreuves. Et alors, une autre écriture dit encore, et c'est là, on peut dire que c'est le sommet de l'évangile de Saint Jean, après ça on retrouve un ton prosaïque, j'allais dire, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. En hébreu, c'est encore plus net, ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ve'ibitu elai et asher dakaru. Ça évoque ce thème du cœur de Dieu qui est bouleversé. Vous vous rappelez, on parlait de ça devant le paysage de Sodome et Gomorre, ma peratz dom. Et Dieu, quand il voit l'humanité aller vers le chaos, créer des Sodome et Gomorre, eh bien, c'est son cœur qui est bouleversé. C'est dans Osée, vous vous rappelez, quand Dieu, le cœur de Dieu lui-même est bouleversé. Et alors, c'est du cœur du Christ en croix que Saint Jean voit jaillir cette source qui symbolise dans l'Ancien Testament la fécondité de la mort du juste. Et à mon avis, ici, notre méditation ne serait pas complète si on ne profitait pas de l'occasion pour évoquer au moins les plus grands textes de cette ligne de force qu'on trouve très peu exploitée au fond de son temps, au temps de Jésus, dans le messianisme de l'époque, et que Jésus, avec une désinvolture extraordinaire par rapport aux préjugés de son temps, a dû méditer. Hein. Et c'est comme ça, je crois, je ne veux pas vous dire qu'il a fait la démonstration à ses disciples qu'on vient de faire maintenant. Non, c'est pas ça du tout. Mais je pense qu'on le rejoint ici, grâce à la lecture de ces textes, dans la solitude incomprise de sa montée à Jérusalem. Oui. Je crois qu'il faut prendre le temps de le faire. Il y a deux textes qu'on ne peut pas ne pas lire. Le premier, c'est le psaume 22. Et tout à l'heure, nous parlions du livre d'Esther. Eh bien, si vous allez voir le Midrash Tehillim, pas le livre d'Esther, est commenté par ce psaume 22. Et qu'est-ce que c'est que le livre d'Esther? C'est le peuple voué à l'extermination, et puis Dieu qui intervient par l'intermédiaire d'une femme, d'Esther, et qui renverse la situation. Afar, tout le mot, c'est la racine, comme Aper Hatzdom. Dieu est un Dieu qui a les issues de la mort, et puis alors ce peuple voué à l'intermédiaire ressuscite. Et c'est peut-être pas par hasard que Jésus a pris ce psaume lui-même. Lisez dans... Il y a un père jésuite, là, comment s'appelle-t-il, qui a fait les psaumes nuit et jour, le père Beauchamp. Ses livres sont très difficiles à lire. Il faudra en faire une traduction en français à l'usage de tout le monde. Celui-là est plus facile à lire, moins difficile à lire que les autres. Et le dernier chapitre, là, est consacré à une analyse, d'après le Midrash Tehillim, de ce psaume 21. Et je ne saurais trop vous conseiller de faire une lecture très attentive de cela. Le père Beauchamp, les psaumes nuit et jour, non, je crois que c'est au seuil que c'est paru. Ah, on trouve chez lui des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Je vous lis ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient confiance, confiance et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient et ils échappaient. En toi, leur confiance, ils n'avaient pas honte. Et moi, vers et non pas homme, risé des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane, ils hochent la tête. Il se remit à Dieu qui le délivre, qui le libère, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre maternel, ma confiance près des mamelles de ma mère. Sur toi, je fus jeté au sortir des entrailles. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bashan m'encerclent. Contre moi baillent leurs gueules, lions lacérants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à la mâchoire, tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entourne. Comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os, les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Dieu, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Le psaume s'appelle Ayelet HaShachar, voilà, la biche de l'aurore, et ici, ô ma force, Eyaluti, vite à mon aide, délivre de l'âme mon épée, de la patte du chien mon unique, sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau ma pauvre âme. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai. Alors c'est très curieux, il y a un verbe ici, anitani, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Dieu est intervenu, Dieu a répondu, et ce cri de détresse qui va jusque au fond de l'absurdité de la mort, ben, se transforme en un cri de joie, de reconnaissance, une prédication, au sens le plus fort du mot, qui se répercute aux extrémités du monde, et en écho à laquelle les extrémités du monde viennent. Et s'accomplit ainsi les promesses faites à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, toute la race d'Israël, ça commence par le peuple élu, mais c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour le rassemblement des tribus d'Israël, tu seras ma lumière jusqu'aux extrémités du monde. Quand je serai attiré en croix, j'attirerai tout à moi. Il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai louange et prédication, c'est deux mots synonymes. Verre dignum et justum est predicare. Laudare benedicere predicare. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. Et ce cri de désespoir, certains se posent la question de savoir si Jésus n'a pas désespéré sur la croix. Mais ils ignorent que ce psaume se termine par un cri de résurrection. C'est toujours le schéma, je ne mourrai pas, je vivrai, je chanterai. Lo amut ki rieva saper maaseya. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Tous les lointains de la terre, en écho à cette prédication, se souviendront et reviendront vers Dieu. Toutes les familles des nations, comme dans les promesses faites à Abraham, se prosterneront devant lui. À Dieu, la royauté, au maître des nations. Devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. et devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus s'aligner le servira. Elle annoncera le Seigneur aux âges à venir. Elle racontera aux peuples à naître, aux peuples à naître sa justice, ce qu'il a fait. Vous êtes témoin de ces faits. On n'est pas là pour raconter des histoires, inventer des idéologies, mais être témoin de ces faits, c'est ça la prédication. Et la prédication ici, elle jaillit au carrefour, du carrefour de cette terre sainte et à Jérusalem, Mitzion, Tetzetorot, Varadonaï, Birushalayim. On dirait que tout se prépare pour qu'une nouvelle Pentecôte se déclenche, dont la prédication retentira aux extrémités du monde. Et pourquoi est-ce que Dieu focalise l'attention du monde sur Jérusalem actuellement? Est-ce que ce n'est pas pour réveiller l'attention du monde à son existence? Je ne sais pas, hein. je ne sais pas, c'est pas défendu de faire des rêves, on verra comment Dieu les accomplira. Encore un texte ici qu'il faut connaître, pour rejoindre Jésus encore une fois dans la solitude incomprise de sa montée à Jérusalem. C'est le quatrième chant du serviteur qui commence en Isaïe 52:13. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il s'élèvera, il sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, il n'avait plus figure humaine et son apparence était même plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Si vous lisez l'exégèse juive, vous avez les deux interprétations. Hein. L'interprétation personnelle d'un personnage qui est mort, qui a été persécuté, et puis dont Dieu prend la cause en main, et du peuple. Hein. Vous avez les deux choses. Dans le christianisme, on a tendance à mettre l'accent sur la personne de Jésus. Mais je crois qu'on a retrouvé aussi la dimension collective. Et je crois qu'on peut méditer sur la destinée mystérieuse de ce peuple qui garde la marque de l'élection que si on médite cette destinée à la lumière d'une logique biblique de l'histoire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras de Dieu, à qui s'est-il révélé? Le bras de Dieu, ça évoque pas le bras qui fait sortir les Hébreux de la captivité d'Égypte, à main forte et à bras étendus. Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes. Ici, c'est pas le mot Dakar comme dans Zacharie, mais c'est le même sens. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche, Dieu a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et par lui, la volonté de Dieu s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec les puissants, il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Ici, on a semble-t-il le même mot que dans ce fameux chapitre de l'épître aux Philippiens, l'anéantissement. Era et nafsho, la mavette. Il s'est vidé, il s'est anéanti. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il péchait, qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Voilà, je pense que cette méditation à Megiddo n'est pas une perte de temps. On ne peut pas mieux se préparer ici pour cette montée à Jérusalem. Alors, on ne va pas traverser la Samarie, on va aller au Carmel d'abord, qui est aussi très riche de signification, et puis on va monter à Jérusalem avec Paul, le parfait disciple. Voyez-vous, au fur et à mesure qu'on progresse dans l'expérience, la géographie ne disparaît pas, les racines au contraire poussent toujours plus profondément dans le sol, mais la géographie devient théologie, et la montée à Jérusalem, ça devient synonyme d'imitation de Jésus-Christ pour nous. Et alors, saint Paul, nous allons le rejoindre et monter à Jérusalem avec saint Paul, le parfait disciple. Et alors, il remonte, non pas en parcourant les routes de ce pays, mais en faisant du cabotage sur les bateaux phéniciens. On va le voir arriver de Acco à Césarée, et puis nous monterons avec lui à Jérusalem, où nous serons ce soir.